VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Arbutson. Au sommaire, en ce vendredi 13 février 2015.
En République démocratique du Congo, publication du calendrier électoral.
Joseph Kabila va respecter la Constitution. C'est en substance la réaction du conseiller du chef de l'État en charge des relations avec le Parlement après la publication du calendrier électoral.
Eric Kambago de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a rejeté le diktat de la garde présidentielle. Il a promis des réformes dans 3 mois.
Je crois que le président s'est inscrit dans la logique de la réprobation générale par rapport à l'attitude du RSP qui a perturbé non seulement le conseil du ministre du 4 février, mais ça va donner l'impression de remettre en cause effectivement les processus de transition.
On suivra l'analyse de Bourema Ouédraogo, directeur du journal d'investigation Le Reporter.
Le Pentagone a un nouveau patron, Ashton Carter, qui était numéro 2 au département de la défense de 2011 à 2013.
Et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle les parties au conflit ukrainien à tenir les promesses faites lors de l'accord de cessez-le-feu conclu à Minsk. Mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a rejeté le diktat de la garde présidentielle. Il a promis des réformes dans 3 mois. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, avait réclamé début février la démission du premier ministre Isaac Zida. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Bourema Ouédraogo, directeur du journal d'investigation Le Reporter.
Je crois que le président s'est inscrit dans la logique de la réprobation générale par rapport à l'attitude du RSP qui a perturbé non seulement le conseil du ministre du 4 février, mais ça va donner l'impression de remettre en cause effectivement le processus de transition. Et mieux, le président effectivement ne semble pas avoir apprécié que le RSP outrepasse son autorité parce que c'est lui qui nomme son chef d'état-major particulier, c'est lui qui est le chef suprême des armées, même si on est en période de transition. Selon les sources qui nous sont parvenues, il aurait même fait savoir au chef du RSP qu'il n'était pas du tout content de leur attitude. Dans tous les cas, le communiqué qu'il a fait entre en droite ligne effectivement des préoccupations des Burkinabés, en tout cas dans leur majorité, que nous ne sommes pas d'accord que le RSP puisse imposer ses vues ou en tout cas sa vision de comment doivent fonctionner les institutions de la République.
Bourema Ouédraogo, directeur du journal d'investigation Le Reporter.
Négociations intermaliennes à Alger, le chef de la diplomatie algérienne s'est montré relativement optimiste quant à la possibilité d'aboutir à un accord de paix, signale l'agence France-Presse. Des détails avec Eddy Issango.
La capitale algérienne accueille la 5e phase des négociations intermaliennes. Ramtane Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, reconnaît que la situation sur le terrain est difficile, mais que les discussions devraient être un sursaut collectif pour la conclusion d'un accord de paix et de réconciliation. Mardi, le premier ministre malien Modibo Keïta avait affiché un optimisme prudent. Il avait déclaré à Alger que ces rounds de pourparlers doivent permettre de discuter en profondeur pour aller vers un accord définitif. 4 rounds de négociations ont eu lieu depuis juillet à Alger. La dernière session s'est achevée en fin novembre. Un projet d'accord présenté par Alger prévoit une vaste autonomie pour le nord du Mali tout en maintenant l'intégrité du territoire malien. Vendredi dernier, les conseillers de sécurité avaient menacé des sanctions, ce qui reprendrait les hostilités. Mais depuis plusieurs semaines, des groupes armés hostiles se battent entre Tambacor et Anéfis dans le nord du Mali.
En Afrique du Sud, ouverture hier de la session parlementaire, eh bien, elle a tourné à la bagarre, signale l'agence France-Presse. L'opposition de gauche a interrompu pendant 1 heure le discours du président Zuma et il a fallu l'intervention des forces de l'ordre. Morgan Guiriec.
Les 25 députés du bouillant Julius Malema avaient annoncé la couleur, promettant de ne pas laisser le président prononcer son discours sur l'état de la nation tant qu'il refuserait de répondre aux questions relatives à la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable. Habillé en combinaison orange d'ouvrier, bottes en caoutchouc et casque de chantier, les combattants de la liberté économique ont tenu parole, mais M. Zuma est resté muet. La présidente du Parlement a alors demandé aux forces de sécurité d'évacuer les troublions, ce qui fut fait après quelques échanges de coups de poing. Ceux de l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, ont eux aussi quitté l'hémicycle pour protester contre l'intervention de la police à l'intérieur du Parlement. Finalement, Jacob Zuma parlera avec plus d'une heure de retard devant les seuls députés de l'ANC. Il n'a pas éludé la question de la pénurie d'électricité qui provoque des délestages réguliers. À ce propos, le président sud-africain a confirmé que son pays va mettre en concurrence 5 pays pour la construction d'une centrale nucléaire et l'achat de 6 à 8 nouveaux réacteurs.
Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé jeudi un appel de fonds pour le Sahel pour 2015. C'est pour aider des millions de personnes dans 9 pays de la région. Il s'agit de mobiliser près de 2 milliards de dollars selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.
Plus de 20 millions de personnes du Sahel manquent de nourriture, dont 2,6 millions d'entre elles ont besoin d'assistance alimentaire immédiatement, selon l'ONU. La chef de l'humanitaire de l'ONU, Valérie Amos, s'est déclarée profondément préoccupée par la crise au Sahel. Elle dit redouter que les nécessiteux ne soient oubliés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pentagone a un nouveau patron, Ashton Carter, qui était numéro 2 au département de la Défense de 2011 à 2013, a été confirmé hier au Sénat par une écrasante majorité. Comme l'explique Chérubin Dorsil, des défis énormes attendent le successeur de Chuck Hagel.
En tête de liste, la campagne militaire contre l'État islamique en Irak et en Syrie. L'administration Obama a fait l'objet de maintes critiques pour ne s'être pas engagée davantage au plan militaire, alors que le conflit syrien ne s'était pas encore détérioré à ce point et que les rebelles dits modérés n'étaient pas encore supplantés par les islamistes radicaux. Autre dossier brûlant, le conflit dans l'Est de l'Ukraine, où les séparatistes pro-russes viennent de conclure un accord de cessez-le-feu fragile avec le gouvernement de Kiev sous les auspices de la Russie, qui soutient la rébellion, et de deux alliés occidentaux de l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Le nouveau secrétaire à la Défense devra aussi se pencher sur l'Afghanistan et, au plan interne, faire face à une situation budgétaire pas toujours rassurante. Ashton Carter trouvera néanmoins des oreilles très attentives au Congrès. Sa nomination a été approuvée par 93 voix contre 5 et le leadership républicain n'a pas tari d'éloges à son égard. Il est tout aussi apprécié et respecté par les démocrates. Âgé de 60 ans, Carter est le quatrième patron du Pentagone sous la présidence d'Obama, après Robert Gates, Leon Panetta et Chuck Hagel.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué le cessez-le-feu conclu jeudi à Minsk pour mettre fin à l'insurrection dans l'est de l'Ukraine. Il a dit espérer que la trêve sera respectée par toutes les parties au conflit. M. Ban s'exprimait quelques heures après que les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de l'Allemagne et de la France aient annoncé un accord.
Le texte prévoit notamment un cessez-le-feu, la création d'une zone démilitarisée, la reprise du contrôle de la frontière avec la Russie par les autorités ukrainiennes d'ici la fin 2015 et le dialogue sur un régime d'autonomie locale provisoire dans certains secteurs des régions de Donetsk et de Lugansk. Les États-Unis n'ont pas participé au sommet de Minsk, mais la Maison-Blanche a qualifié l'accord d'étape potentiellement importante vers une résolution pacifique du conflit.
Le premier ministre grec et le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, ont convenu de lancer dès aujourd'hui des travaux pour chercher une base commune sur les propositions d'Athènes pour alléger la dette de la Grèce. Ces discussions techniques vont réunir des experts grecs et des représentants des créanciers du pays.
La chancelière allemande Angela Merkel, symbole de l'orthodoxie budgétaire, s'est félicitée de cette nouvelle possibilité de forger un compromis. Néanmoins, beaucoup de choses restent à faire, a constaté le président de la Commission européenne et ancien patron de la zone euro, Jean-Claude Juncker.
Un juge fédéral américain a condamné vendredi un terroriste avoué à 25 ans de prison. L'Égyptien Adel Abdel Bari avait plaidé coupable en septembre 2014 de complot en liaison avec les attentats contre deux ambassades des États-Unis en Afrique en 1998.
Il avait été extradé du Royaume-Uni en octobre 2012. Selon les procureurs américains, Bari dirigeait la cellule londonienne du djihad islamique égyptien. Il a également travaillé en étroite collaboration collaboration avec les principaux dirigeants d'Al-Qaïda avant et après les attentats contre les ambassades qui avaient coûté la vie à 224 personnes.
Le gouvernement américain a dévoilé une nouvelle stratégie nationale pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. Le président Barack Obama a averti que ce commerce illicite sape la sécurité des États-Unis tout en décimant des populations d'animaux emblématiques. Les trois ministères impliqués dans ce combat, les départements d'État, de l'Intérieur et de la Justice, ont rendu publique la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la traite de la faune, un an après que le président Obama eut annoncé ses principes directeurs. Le braconnage risque de faire disparaître des espèces telles que les éléphants et les rhinocéros, a averti M. Obama. Des réseaux de criminels bien armés, bien équipés et bien organisés, de concert avec des fonctionnaires corrompus, exploitent les frontières poreuses et la faiblesse des institutions, a dit le président américain. On enchaîne avec la minute de l'économie. Présentation Timothée Donangmaï.
C'est le sauve qui peut au Nigeria où les habitants achètent à tour de bras les dollars et autres livres sterling face au recul du Naira, conséquence de l'incertitude créée par le décalage des élections générales initialement prévues le 14 février. La chute dramatique des cours du pétrole brut avait déjà sérieusement mis à mal la monnaie nigériane. Toutefois, mettre son argent à l'abri à l'extérieur n'est pas facile pour les Nigérians ces jours-ci. La Banque centrale du pays a fixé un plafond quotidien de transfert de 10 000 dollars. En outre, les pays destinataires exigent parfois des preuves que l'argent a été honnêtement gagné. La France et l'Égypte ont paraphé hier un accord portant vente à la défense égyptienne de 24 avions de combat Rafale, d'une frégate FREM et de missiles MBDA, le tout pour un coût de plus de 5 milliards d'euros. C'est le quotidien Le Monde qui a publié sur son site l'information confirmée par la suite par l'agence Reuters. Selon Le Monde, la signature officielle de l'accord aura lieu lundi au Caire. Ici, aux États-Unis, 5 sénateurs républicains et démocrates ont introduit un projet de loi visant à mettre fin à plus d'un demi-siècle d'embargo contre Cuba, et ce, après l'annonce par le président Barack Obama d'efforts en vue de normaliser les relations avec l'île. Le secteur agricole et les milieux d'affaires américains attendent impatiemment cette ouverture d'un important marché si proche, mais pour le moment si difficile d'accès à cause des restrictions en place.
Et on passe au sport. Présentation Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Nouveau classement FIFA avec un bond de la Côte d'Ivoire.
L'Allemagne, championne du monde, reste en tête devant l'Argentine et la Colombie. Juste derrière la France, l'Uruguay devance désormais l'Espagne qui recule d'un rang, dixième. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, a gagné 8 places pour grimper au 20e rang. Quant au finaliste, le Ghana, il atteint la 25e place.
Les joueurs du Nzalang national promus fonctionnaires en Guinée équatoriale.
Les joueurs de l'équipe nationale 4e de la CAN organisée dans leur pays ont été faits fonctionnaires de l'administration après une rencontre avec le président Teodoro Mbiangema. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique équato-guinéenne. Je vous rappelle que la Guinée équatoriale a perdu au tir au but le match pour la 3e place contre la RDC.
Les anciennes stars du football se mobilisent contre le virus à Ebola.
Zinedine Zidane et Ronaldo vont prochainement rechausser leurs crampons à l'occasion d'un match de gala contre les All-Stars de l'AS Saint-Etienne. Cette rencontre est organisée par l'ONU en solidarité avec les victimes d'Ebola. Le match amical se déroulera le 20 avril au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, dans le centre-est de la France.
Et la ville de Paris est presque candidate pour organiser les Jeux Olympiques 2024 ?
Longtemps réservée à l'idée d'une candidature olympique, le maire de Paris, Anne Hidalgo, est désormais convaincu. La ville Lumière devrait être candidate pour organiser les Jeux si le conseil municipal l'accepte. Enfin, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Un seul match hier soir, les Chicago Bulls ont foncé dès le début face aux Cleveland Cavaliers, prenant une dizaine de points d'avance et ils n'ont pas lâché de terrain. Le score final, 113-98. Quant aux autres équipes, il y avait relâche car elles se préparaient pour la 64e édition du All-Star Weekend, temps fort du basketball américain. Même si la rencontre n'a pas la renommée du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. L'All-Star Weekend dure cette année du 13 au 15 février et c'est la ville de New York qui, à travers ses deux clubs, les Nets et les New York Knicks, a l'honneur d'accueillir l'événement. Parmi les temps forts attendus, les concours de dunk et de trois points, mais aussi le match des célébrités et le concours des meneurs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodidier avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Nous enchaînons avec les dossiers du jour. Ici Washington, la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral a été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin est donc prévu pour le 27 novembre 2016. Cette annonce est intervenue quelques heures après la promulgation de la nouvelle loi électorale par le président Joseph Kabila. De Kinshasa, un reportage d'Éric Ambago de notre station partenaire Top Congo FM.
Joseph Kabila va respecter la Constitution. C'est en substance la réaction du conseiller du chef de l'État en charge des relations avec le Parlement après la publication du calendrier électoral. Raphaël Loulou.
Le président de la République est légaliste. Voilà pourquoi nous sommes là. Et les obligations qui sont celles du président de la République, il les fera. Il respectera la Constitution, nous l'avons toujours dit. Toutes les institutions respecteront le calendrier, mais vous avez suivi à la fin, la CENI a donné des contraintes. Lesquelles contraintes obligent les uns et les autres à s'activer pour que le calendrier soit respecté tel qu'il vient d'être publié aujourd'hui.
À l'opposition, on se félicite du respect du délai constitutionnel pour l'organisation de la présidentielle, mais on émet des doutes étant donné que la présidentielle sera organisée après les élections locales, municipales et urbaines. Jean-Lucien Boussa est président du CDR, le Courant des démocrates et rénovateurs.
L'élection présidentielle fixée dans les délais constitutionnels, cependant, nous avons exigé un calendrier global, cohérent, consensuel et conforme à la loi. Là-dessus, quelques problèmes subsiste. Le fait d'avoir prévu les élections des conseillers municipaux et les élections de députés provinciaux le même jour ne garantissent ni la faisabilité, ni la crédibilité, ni la transparence du processus. Nous sommes en train de craindre que la CENI aille programmer d'avance un cas de force majeure qui risque d'amener à un glissement du calendrier. C'est pour cette raison que l'opposition avait exigé un calendrier consensuel.
L'envoyé spécial de l'Union africaine en charge des questions électorales espère que maintenant le terrain est balisé, tout va se calmer. Edem Kodjo.
Puisque nous avons un calendrier désormais et que cette espèce d'hypothèque est levée, on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas où on va. Là, on sait maintenant clairement où on va. Évidemment, c'est beaucoup de travail pour la Commission électorale nationale indépendante, pour le gouvernement et pour toutes les institutions qui doivent, jour après jour, faire en sorte que tout cela devienne une réalité, que l'on n'accumule pas de retard et que finalement le calendrier soit totalement respecté.
La publication du calendrier global était une exigence de la communauté internationale pour apporter son appui financier au processus électoral en République démocratique du Congo. Kinshasa, Éric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur la radio communautaire du Katanga à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, Camille Grodidier avec vous. Au Burundi, la controverse électorale bat son plein. La société civile et les partis d'opposition accusent le président Pierre Nkurunziza de vouloir briguer un autre mandat, le troisième selon eux. Mais dans le camp présidentiel, on assure que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, n'a pas encore choisi son candidat et que de toute façon, dans tous les cas, rien n'entraverait une éventuelle candidature du chef de l'État. Timothée Donangmaï a recueilli à ce sujet la réaction de l'ambassadeur du Burundi à Washington. On écoute Monsieur Ernest Ndamba Shinzi.
Les élections au Burundi, tout comme dans notre pays du monde, sont réglementées par la Constitution. La Constitution du Burundi, qui est la loi fondamentale, précise dans quel cadre les élections sont organisées. Il y a aussi la Cour constitutionnelle, qui statue sur la recevabilité des candidatures. Donc, ce n'est pas à la rue d'interpréter la Constitution, ce n'est pas à la volonté de tout un chacun de lire ce qui est des lois qui régissent l'organisation des élections. Le moment opportun, la Cour constitutionnelle donnera sa lecture de la Constitution. Mais tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que conformément à la Constitution du Burundi, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et si vous posez la question à chaque citoyen burundais, combien de fois avez-vous été invité à mettre votre bulletin dans l'urne pour voter en faveur du président Nkurunziza? C'est clair et net. C'était en 2010.
C'est-à-dire qu'à votre avis, il a encore une autre possibilité de se représenter.
Ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de réalité. Le peuple burundais a été invité à voter directement pour le président Nkurunziza aux élections présidentielles en 2010. Seulement, c'était une fois. À vous de comprendre alors qu'on n'a pas encore atteint le nombre de deux fois.
Très bien. Sur un autre plan, les partis d'opposition et la société civile parlent de harcèlement et même de musellement de toute voix dissidente au Burundi. Qui répondez-vous?
Il n'y a pas de tracasserie que subissent les hommes de la société civile et de la presse. Comment pouvons-nous dire qu'il y a harcèlement alors que le gouvernement a autorisé toute une curielle de stations de radio et de télévision privées, a autorisé plusieurs de la société civile.
Et comment s'explique la situation de notre confrère Bob Rugurika, le directeur de la RPA, la station partenaire de la Voix de l'Amérique à Bujumbura?
Probablement que vous avez entendu que Rugurika, Bob, a déclaré sur RPA qu'il connaît celui qui a tué les trois sœurs italiennes au Burundi. Il est normal que la justice burundaise, qui a la charge d'éclaircir son crime afin que les criminels soient punis, puisse lui demander de présenter, de donner des indications qui puissent mener à l'arrestation de ce criminel.
L'ambassadeur du Burundi à Washington, Monsieur Ernest Ndabashinzi.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au micro Camille Grosdidier, les ministres de la Jeunesse du Commonwealth ont terminé une rencontre au Cameroun pour voir comment empêcher les jeunes de rejoindre des organisations terroristes. Selon eux, l'une des principales causes est le chômage massif. Lionel Gaïma.
65% de la population africaine a moins de 35 ans. Chaque année, 10 à 15 millions de personnes entrent dans le marché du travail. Pour le secrétaire général adjoint du Commonwealth, Deodat Maharak, cette explosion démographique peut être potentiellement dangereuse pour un continent pauvre faisant face à des guerres, des maladies et au terrorisme. Les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'éducation, n'ont pas de services. Là où ils vivent, ils pourraient faire autre chose. Ce que nous voulons, c'est fournir la meilleure perspective et l'analyse au gouvernement qui décide, sur une base nationale, quelle option est la meilleure. Un autre grand problème de l'Afrique, le jeune qui constitue la majorité de la population ne sont pas écoutés ou associés à l'élaboration des politiques. Kajikuru Pauline, originaire de Namibie. Un des gros obstacles qui va supprimer les voix de la jeunesse africaine, c'est qu'il n'y a pas de consultation entre les jeunes et les vieux. Comment unir des gens différents, des gens de différentes cultures, des gens qui ont des perspectives différentes? Vous engagez, vous consultez. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas venir avec des choses qui, selon vous, seront bénéfiques à la jeunesse africaine. Les défis sont nombreux, notamment lorsque le système éducatif n'offre pas d'opportunités aux jeunes Africains pour développer leur potentiel. Jean-Marc Afessi Mbafor du Conseil national de la jeunesse camerounaise. Nous devons réformer le système d'éducation et fournir aux jeunes le savoir-faire nécessaire pour qu'ils n'attendent pas un travail, mais qu'ils puissent eux-mêmes se créer un boulot. Nous devons quitter ce système éducatif datant des indépendances lorsqu'il fallait former des administrateurs et des fonctionnaires éduqués des jeunes. a fait Simbafor, qui ajoute que même avec des compétences, c'est un casse-tête chinois pour un jeune d'obtenir un prêt auprès des institutions financières. Toutes ces difficultés, en plus du chômage, peuvent alimenter le terrorisme et grossir des rangs de Boko Haram. David Musonda, ministre zambien de la jeunesse et des sports. Cela ne justifie pas que de jeunes puissent mener des activités illégales. Les gouvernements sont inquiets. Le Commonwealth est inquiet. Le monde est inquiet de la jeunesse. Nous avons une population jeunes relativement importantes à travers l'Afrique et ils sont très productifs. Ils ont de l'énergie et aller rejoindre des groupes terroristes ne peut être une solution au chômage. Alors, quelle solution à cette bombe à retardement que représente le chômage sur le continent? Les ministres promettent de travailler avec le secteur privé et les gouvernements pour créer des emplois. Ils vont aussi encourager des multinationales à investir en Afrique. Ils ont réitéré leur appel aux pays africains à investir dans l'agriculture. Ce secteur employait 70% de jeunes africains avant 1985. Maintenant, cultiver la terre n'est plus attrayant pour les jeunes africains.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Et finalement, ici aux États-Unis, 5 sénateurs républicains et démocrates ont introduit hier une proposition de loi visant à lever l'embargo imposé il y a un demi-siècle à Cuba. Un récent sondage a montré que plus de 60% des Américains y sont favorables, en particulier les agriculteurs. Les précisions de Michel Joseph.
La saison des semailles est encore loin, mais le fermier Thomas Martin jubile à l'idée de pouvoir bientôt vendre une plus grande partie de sa production à Cuba une fois l'embargo levé.
Dans nos champs, nous cultivons en fait beaucoup de maïs de spécialité, de maïs dur, endosperme, destiné presque exclusivement au marché d'exportation. Ainsi, nous verrions des bénéfices pour nos propres opérations en cas d'exportation additionnelle vers Cuba.
Thomas Martin a déjà fait ses calculs. Une levée de l'embargo contre Cuba se traduirait par 15% de profit de plus pour sa ferme, du jamais vu depuis plus de 50 ans, fait-il remarquer. D'autres fermiers américains n'ont pas attendu l'ouverture vers Cuba, annoncée par le président Obama, pour s'attaquer au marché cubain. Mark Albertson dirige l'association du soja de l'État de l'Illinois.
L'agriculture a été exemptée de l'embargo grâce à la loi sur la réforme des sanctions commerciales prise sous l'administration Clinton, mais nous avons beaucoup de formalités à remplir.
L'une des difficultés est l'interdiction d'accorder du crédit à Cuba. Les Cubains doivent payer d'avance et en espèces.
Cela nous rend très peu compétitifs et nous avons vu un déclin drastique de nos exportations agricoles vers Cuba ces dernières années.
En accordant des facilités de crédit à l'île et en levant l'embargo, les États-Unis deviendront extrêmement compétitifs, compte tenu surtout de leur proximité avec Cuba, estime Paul Johnson, président de la coalition agricole américaine pour Cuba. L'excitation est à son comble dans les milieux d'affaires américains à l'idée que Cuba leur sera bientôt ouvert. Le fermier Thomas Martin fait partie d'une délégation de 75 représentants des secteurs agricoles et des affaires des États-Unis s'apprêtant à se rendre dans l'île le mois prochain.
Il y a assurément beaucoup de problèmes sur lesquels nous devons travailler pour ce qui est des droits humains. En tant que fermier et catholique, je vois que beaucoup d'églises sont fermées à Cuba. Et cela me préoccupe. Cela dit, 54 ans d'embargo ont très peu accompli en termes d'amélioration des droits humains à Cuba.
Dans son discours sur l'état de l'Union en janvier, le président Barack Obama a appelé le Congrès à entamer les efforts visant à mettre un terme à l'embargo contre Cuba. Le fermier Martin espère que cela se fera à temps et que ses silos de maïs et de soja trouveront des importateurs dans la plus grande des Grandes Antilles.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Retrouvez-nous ce vendredi pour écouter de la bonne musique des îles. Zouk Music, Soca Music, du bon reggae. Et les amis, ne ratez pas cette émission parce que nous aurons l'honneur, le privilège d'avoir l'artiste Mehdi.
Bonjour, je suis Mehdi, je serai avec vous dans RM Show de Roger Moutou.
sur VOA Afrique.
Ben voilà les amis, ne ratez pas, appelez-nous au 001-202-619-3140 et vos commentaires sur notre groupe Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas de la bonne musique le vendredi seulement ici sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Butson, au micro Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com. Très bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Arbutson. Au sommaire, en ce vendredi 13 février 2015.
En République démocratique du Congo, publication du calendrier électoral.
Joseph Kabila va respecter la Constitution. C'est en substance la réaction du conseiller du chef de l'État en charge des relations avec le Parlement après la publication du calendrier électoral.
Eric Kambago de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a rejeté le diktat de la garde présidentielle. Il a promis des réformes dans 3 mois.
Je crois que le président s'est inscrit dans la logique de la réprobation générale par rapport à l'attitude du RSP qui a perturbé non seulement le conseil des ministres du 4 février, mais ça va donner l'impression de remettre en cause effectivement le processus de transition.
On suivra l'analyse de Bourima Ouédraogo, directeur du journal d'investigation Le Reporter.
Le Pentagone a un nouveau patron, Ashton Carter, qui était numéro 2 au département de la défense de 2011 à 2013.
Et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle les parties au conflit ukrainien à tenir les promesses faites lors de l'accord de cessez-le-feu conclu à Minsk. Mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a rejeté le diktat de la garde présidentielle. Il a promis des réformes dans 3 mois. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, avait réclamé début février la démission du premier ministre Isaac Zida. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Bourima Ouédraogo, directeur du journal d'investigation Le Reporter.
Je crois que le président s'est inscrit dans la logique de la réprobation générale par rapport à l'attitude du RSP qui a perturbé non seulement le conseil des ministres du 4 février, mais ça va donner l'impression de remettre en cause effectivement le processus de transition. Et mieux, le président effectivement n'a semble pas avoir apprécié que le RSP outrepasse son autorité parce que c'est lui qui nomme son chef d'état-major particulier, c'est lui qui est le chef suprême des armées, même si on est en période de transition. Selon les sources qui nous sont parvenues, il aurait même fait savoir au chef du RSP qu'il n'était pas du tout content de leur attitude.
Dans tous les cas,
le communiqué qu'il a fait entre en droite ligne effectivement des préoccupations des Burkinabés, en tout cas dans leur majorité, que nous ne sommes pas d'accord que le RSP puisse imposer ses vues ou en tout cas sa vision de comment doivent fonctionner les institutions de la République.
Bourima Ouédraogo, directeur du journal d'investigation Le Reporter.
Négociations intermaliennes à Alger, le chef de la diplomatie algérienne s'est montré relativement optimiste quant à la possibilité d'aboutir à un accord de paix, signale l'agence France Presse. Des détails avec Eddy Issango.
La capitale algérienne accueille la 5e phase des négociations intermaliennes. Ramtane Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, reconnaît que la situation sur le terrain est difficile, mais que les discussions devraient être un sursaut collectif pour la conclusion d'un accord de paix et de réconciliation. Mardi, le premier ministre malien Modibo Keïta avait affiché un optimisme prudent. Il avait déclaré à Alger que ces rounds de pourparlers doivent permettre de discuter en profondeur pour aller vers un accord définitif. Quatre rounds de négociations ont eu lieu depuis juillet à Alger. La dernière session s'est achevée en fin novembre. Un projet d'accord présenté par Alger prévoit une vaste autonomie pour le nord du Mali tout en maintenant l'intégrité du territoire malien. Vendredi dernier, les conseils de sécurité avaient menacé des sanctions, ce qui reprendrait les hostilités. Mais depuis plusieurs semaines, des groupes armés hostiles se battent entre Tambacor et Anéfis dans le nord du Mali.
En Afrique du Sud, ouverture hier de la session parlementaire. Eh bien, elle a tourné à la bagarre, signale l'agence France-Presse. L'opposition de gauche a interrompu pendant une heure le discours du président Zuma et il a fallu l'intervention des forces de l'ordre. Morgan Guiriec.
Les 25 députés du bouillant Julius Malema avaient annoncé la couleur, promettant de ne pas laisser le président prononcer son discours sur l'état de la nation tant qu'il refuserait de répondre aux questions relatives à la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable. Habillé en combinaison orange d'ouvrier, bottes en caoutchouc et casque de chantier, les combattants de la liberté économique ont tenu parole, mais M. Zuma est resté muet. La présidente du Parlement a alors demandé aux forces de sécurité d'évacuer les troublions, ce qui fut fait après quelques échanges de coups de poing. Ceux de l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, ont eux aussi quitté l'hémicycle pour protester contre l'intervention de la police à l'intérieur du Parlement. Finalement, Jacob Zuma parlera avec plus d'une heure de retard devant les seuls députés de l'ANC. Il n'a pas éludé la question de la pénurie d'électricité qui provoque des délestages réguliers. À ce propos, le président sud-africain a confirmé que son pays va mettre en concurrence 5 pays pour la construction d'une centrale nucléaire et l'achat de 6 à 8 nouveaux réacteurs.
Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé jeudi un appel de fonds pour le Sahel pour 2015. C'est pour aider des millions de personnes dans 9 pays de la région. Il s'agit de mobiliser près de 2 milliards de dollars selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.
Plus de 20 millions de personnes du Sahel manquent de nourriture, dont 2,6 millions d'entre elles ont besoin d'assistance alimentaire immédiatement, selon l'ONU. La chef de l'humanitaire de l'ONU, Valérie Amos, s'est déclarée profondément préoccupée par la crise au Sahel. Elle dit redouter que les nécessiteux ne soient oubliés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pentagone a un nouveau patron, Ashton Carter, qui était numéro 2 au département de la défense de 2011 à 2013, a été confirmé hier au Sénat par une écrasante majorité, comme l'explique Chérubin Dorsil. Des défis énormes attendent le successeur de Chuck Hagel.
En tête de liste, la campagne militaire contre l'État islamique en Irak et en Syrie. L'administration Obama a fait l'objet de maintes critiques pour ne s'être pas engagée davantage au plan militaire, alors que le conflit syrien ne s'était pas encore détérioré à ce point et que les rebelles dits modérés n'étaient pas encore supplantés par les islamistes radicaux. Autre dossier brûlant, le conflit dans l'est de l'Ukraine, où les séparatistes pro-russes viennent de conclure un accord de cessez-le-feu fragile avec le gouvernement de Kiev sous les auspices de la Russie, qui soutient la rébellion, et de deux alliés occidentaux de l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Le nouveau secrétaire à la Défense devra aussi se pencher sur l'Afghanistan et, au plan interne, faire face à une situation budgétaire pas toujours rassurante. Ashton Carter trouvera néanmoins des oreilles très attentives au Congrès. Sa nomination a été approuvée par 93 voix contre 5 et le leadership républicain n'a pas tari d'éloges à son égard. Il est tout aussi apprécié et respecté par les démocrates. Âgé de 60 ans, Carter est le quatrième patron du Pentagone sous la présidence d'Obama, après Robert Gates, Leon Panetta et Chuck Hagel.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué le cessez-le-feu conclu jeudi à Minsk pour mettre fin à l'insurrection dans l'est de l'Ukraine. Il a dit espérer que la trêve sera respectée par toutes les parties au conflit. M. Ban s'exprimait quelques heures après que les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de l'Allemagne et de la France aient annoncé un accord.
Le texte prévoit notamment un cessez-le-feu, la création d'une zone démilitarisée, la reprise du contrôle de la frontière avec la Russie par les autorités ukrainiennes d'ici la fin 2015 et le dialogue sur un régime d'autonomie locale provisoire dans certains secteurs des régions de Donetsk et de Lugansk. Les États-Unis n'ont pas participé au sommet de Minsk, mais la Maison-Blanche a qualifié l'accord d'étape potentiellement importante vers une résolution pacifique du conflit.
Le premier ministre grec et le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, Dijsselbloem ont convenu de lancer dès aujourd'hui des travaux pour chercher une base commune sur les propositions d'Athènes pour alléger la dette de la Grèce. Ces discussions techniques vont réunir des experts grecs et des représentants des créanciers du pays.
La chancelière allemande Angela Merkel, symbole de l'orthodoxie budgétaire, s'est félicitée de cette nouvelle possibilité de forger un compromis. Néanmoins, beaucoup de choses restent à faire, a constaté le président de la Commission européenne et ancien patron de la zone euro, Jean-Claude Juncker.
Un juge fédéral américain a condamné vendredi un terroriste avoué à 25 ans de prison. L'Égyptien Adel Abdel Bari avait plaidé coupable en septembre 2014 de complot en liaison avec les attentats contre deux ambassades des États-Unis en Afrique en 1998.
Il avait été extradé du Royaume-Uni en octobre 2012. Selon les procureurs américains, Bari dirigeait la cellule londonienne du djihad islamique égyptien. Il a également travaillé en étroite collaboration avec les principaux dirigeants d'Al-Qaïda avant et après les attentats contre les ambassades qui avaient coûté la vie à 224 personnes.
Le gouvernement américain a dévoilé une nouvelle stratégie nationale pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. Le président Barack Obama a averti que ce commerce illicite sape la sécurité des États-Unis tout en décimant des populations d'animaux emblématiques. Les trois ministères impliqués dans ce combat, les départements d'État, de l'Intérieur et de la Justice ont rendu publique la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la traite de la faune, un an après que le président Obama eut annoncé ses principes directeurs. Le braconnage risque de faire disparaître des espèces telles que les éléphants et les rhinocéros, a averti M. Obama. Des réseaux de criminels bien armés, bien équipés et bien organisés, de concert avec des fonctionnaires corrompus, exploitent les frontières poreuses et la faiblesse des institutions, a dit le président américain. On enchaîne avec la minute de l'économie. Présentation, Timothée Donangmaï.
C'est le sauve qui peut au Nigeria où les habitants achètent à tour de bras les dollars et autres livres sterling face au recul du Naira, conséquence de l'incertitude créée par le décalage des élections générales initialement prévues le 14 février. La chute dramatique des cours du pétrole brut avait déjà sérieusement mis à mal la monnaie nigériane. Toutefois, mettre son argent à l'abri à l'extérieur n'est pas facile pour les Nigérians ces jours-ci. La Banque centrale du pays a fixé un plafond quotidien de transfert de 10 000 dollars. En outre, les pays destinataires exigent parfois des preuves que l'argent a été honnêtement gagné. La France et l'Égypte ont paraphé hier un accord portant vente à la défense égyptienne de 24 avions de combat Rafale, d'une frégate FREM et de missiles MBDA, le tout pour un coût de plus de 5 milliards d'euros. C'est le quotidien Le Monde qui a publié sur son site l'information confirmée par la suite par l'agence Reuters. Selon Le Monde, la signature officielle de l'accord aura lieu lundi au Caire. Ici, aux États-Unis, 5 sénateurs républicains et démocrates ont introduit un projet de loi visant à mettre fin à plus d'un demi-siècle d'embargo contre Cuba, et ce, après l'annonce par le président Barack Obama d'efforts en vue de normaliser les relations avec l'île. Le secteur agricole et les milieux d'affaires américains attendent impatiemment cette ouverture d'un important marché si proche, mais pour le moment si difficile d'accès à cause des restrictions en place.
Et on passe au sport. Présentation Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Nouveau classement FIFA avec un bond de la Côte d'Ivoire.
L'Allemagne, championne du monde, reste en tête devant l'Argentine et la Colombie. Juste derrière la France, l'Uruguay devance désormais l'Espagne qui recule d'un rang, dixième. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, a gagné 8 places pour grimper au 20e rang. Quant au finaliste, le Ghana, il atteint la 25e place.
Les joueurs du Nzalang national promus fonctionnaires en Guinée équatoriale.
Les joueurs de l'équipe nationale 4e de la CAN organisée dans leur pays ont été faits fonctionnaires de l'administration après une rencontre avec le président Teodoro Mbiangema. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique équato-guinéenne. Je vous rappelle que la Guinée équatoriale a perdu au tir au but le match pour la 3e place contre la RDC.
Les anciennes stars du football se mobilisent contre le virus à Ebola.
Zinedine Zidane et Ronaldo vont prochainement rejoindre chausser leurs crampons à l'occasion d'un match de gala contre les All-Stars de l'AS Saint-Etienne. Cette rencontre est organisée par l'ONU en solidarité avec les victimes d'Ebola. Le match amical se déroulera le 20 avril au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, dans le centre-est de la France.
Et la ville de Paris est presque candidate pour organiser les Jeux Olympiques 2024 ?
Longtemps réservée à l'idée d'une candidature olympique, le maire de Paris, Anne Hidalgo, est désormais convaincu. La ville Lumière devrait être candidate pour organiser les Jeux si le conseil municipal l'accepte. Enfin, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Un seul match hier soir, les Chicago Bulls ont foncé dès le début face aux Cleveland Cavaliers, prenant une dizaine de points d'avance et ils n'ont pas lâché de terrain. Le score final, 113-98. Quant aux autres équipes, il y avait relâche car elles se préparaient pour la 64e édition du All-Star Weekend, temps fort du basketball américain. Même si la rencontre n'a pas la renommée du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. L'All-Star Weekend dure cette année du 13 au 15 février et c'est la ville de New York qui a traversé deux clubs, les Nets et les New York Knicks, à l'honneur d'accueillir l'événement. Parmi les temps forts attendus, les concours de dunk et de trois points, mais aussi le match des célébrités et le concours des meneurs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodidier avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Nous enchaînons avec les dossiers du jour. Ici Washington, la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral a été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin est donc prévu pour le 27 novembre 2016. Cette annonce est intervenue quelques heures après la promulgation de la nouvelle loi électorale par le président Joseph Kabila. De Kinshasa, un reportage d'Éric Ambago de notre station partenaire Top Congo FM.
Joseph Kabila va respecter la Constitution. C'est en substance la réaction du conseiller du chef de l'État en charge des relations avec le Parlement après la publication du calendrier électoral. Raphaël Loulou.
Le président de la République est légaliste. Voilà pourquoi nous sommes là. Et les obligations qui sont celles du président de la République, il les fera. Il respectera la Constitution, nous l'avons toujours dit. Toutes les institutions respecteront le calendrier. Mais vous avez suivi à la fin, la CENI a donné des contraintes. Lesquelles contraintes obligent les uns et les autres à s'activer pour que le calendrier soit respecté tel qu'il vient d'être publié aujourd'hui.
À l'opposition, on se félicite du respect du délai constitutionnel pour l'organisation de la présidentielle, mais on émet des doutes étant donné que la présidentielle sera organisée après les élections locales, municipales et urbaines. Jean-Lucien Boussa est président du CDR, le Courant des démocrates et rénovateurs.
L'élection présidentielle fixée dans les délais constitutionnels, cependant, nous avons exigé un calendrier global, cohérent, consensuel et conforme à la loi. Là-dessus, quelques problèmes subsiste. Le fait d'avoir prévu les élections des conseillers municipaux et les élections de députés provinciaux le même jour ne garantissent ni la faisabilité, ni la crédibilité, ni la transparence du processus. Nous sommes en train de craindre que la CENI aille programmer d'avance un cas de force majeure qui risque d'amener à un glissement du calendrier. C'est pour cette raison que l'opposition avait exigé un calendrier consensuel.
L'envoyé spécial de l'Union africaine en charge des questions électorales espère que maintenant le terrain est balisé, tout va se calmer. Edem Kodjo.
Puisque nous avons un calendrier désormais et que cette espèce d'hypothèque est levée, on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas où on va. Là, on sait maintenant clairement où on va. Évidemment, c'est beaucoup de travail pour la Commission électorale nationale indépendante, pour le gouvernement et pour toutes les institutions qui doivent, jour après jour, faire en sorte que tout cela devienne une réalité, que l'on n'accumule pas de retard et que finalement le calendrier soit totalement respecté.
La publication du calendrier global était une exigence de la communauté internationale pour apporter son appui financier au processus électoral en République démocratique du Congo. Kinshasa, Éric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur la radio communautaire du Katanga à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, Camille Grosdidier avec vous. Au Burundi, la controverse électorale bat son plein. La société civile et les partis d'opposition accusent le président Pierre Nkurunziza de vouloir briguer un autre mandat, le troisième selon eux. Mais dans le camp présidentiel, on assure que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, n'a pas encore choisi son candidat et que de toute façon, dans tous les cas, rien n'entraverait une éventuelle candidature du chef de l'État. Timothée Donangmaï a recueilli à ce sujet la réaction de l'ambassadeur du Burundi à Washington. On écoute M. Ernest Ndambashinzi.
Les élections au Burundi, tout comme dans d'autres pays du monde, sont réglementées par la Constitution. La Constitution du Burundi, qui est la loi fondamentale, précise dans quel cadre les élections sont organisées. Il y a aussi la Cour constitutionnelle qui statue sur la recevabilité des candidatures. Donc, ce n'est pas à la rue d'interpréter la Constitution, ce n'est pas à la volonté de tout un chacun de lire ce qui est des lois qui régissent l'organisation des élections. Le moment opportun, la Cour constitutionnelle donnera sa lecture de la Constitution. Mais tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que conformément à la Constitution du Burundi, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et si vous posez la question à chaque citoyen burundais, combien de fois avez-vous été invité à mettre votre bulletin dans l'urne pour voter en faveur du président Nkurunziza? C'est clair et net. C'était en 2010.
C'est-à-dire qu'à votre avis, il a encore une autre possibilité de se représenter.
Ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de réalité. Le peuple burundais a été invité à voter directement pour le président Nkurunziza aux élections présidentielles en 2010. Seulement, c'était une fois. À vous de comprendre alors qu'on n'a pas encore atteint le nombre de deux fois.
Très bien. Sur un autre plan, les partis d'opposition et la société civile parlent de harcèlement et même de musellement de toute voix dissidente au Burundi. Qui répondez-vous?
Il n'y a pas de tracasserie que subissent les hommes de la société civile et de la presse. Comment pouvons-nous dire qu'il y a harcèlement alors que le gouvernement a autorisé toute une curielle de stations de radio et de télévision privées, a autorisé plusieurs la société civile.
Et comment s'explique la situation de notre confrère Bob Rugurika, le directeur de la RPA, la station partenaire de la Voix de l'Amérique à Bujumbura?
Probablement que vous avez entendu que Rugurika Bob a déclaré sur RPA qu'il connaît celui qui a tué les trois sœurs italiennes au Burundi. Il est normal que la justice burundaise, qui a la charge d'éclaircir son crime afin que les criminels soient punis, puisse lui demander de présenter, de donner des indications qui puissent mener à l'arrestation de ce criminel.
L'ambassadeur du Burundi à Washington, M. Ernest Ndambashinzi.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au micro, Camille Grosdidier, les ministres de la Jeunesse du Commonwealth ont terminé une rencontre au Cameroun pour voir comment empêcher les jeunes de rejoindre des organisations terroristes. Selon eux, l'une des principales causes est le chômage massif. Lionel Gaïma.
65% de la population africaine a moins de 35 ans. Chaque année, 10 à 15 millions de personnes entrent dans le marché du travail. Pour le secrétaire général adjoint du Commonwealth, Deodat Maharag, cette explosion démographique peut être potentiellement dangereuse pour un continent pauvre faisant face à des guerres, des maladies et au terrorisme. Les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'éducation, n'ont pas de services. Là où ils vivent, ils pourraient faire autre chose. Ce que nous voulons, c'est fournir la meilleure perspective et l'analyse au gouvernement qui décide, sur une base nationale, quelle option est la meilleure. Un autre grand problème de l'Afrique, le jeune qui constitue la majorité de la population ne sont pas écoutés ou associés à l'élaboration des politiques. Kajikuru Pauline, originaire de Namibie.
Un des gros obstacles qui va supprimer les voix de la jeunesse africaine, c'est qu'il n'y a pas de consultation entre les jeunes et les vieux. Comment unir des gens différents, des gens de différentes cultures, des gens qui ont des perspectives différentes? Vous engagez, vous consultez. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas venir avec des choses qui, selon vous, seront bénéfiques à la jeunesse africaine. Les défis sont nombreux, notamment lorsque les systèmes éducatifs n'offrent pas d'opportunités aux jeunes Africains pour développer leur potentiel. Jean-Marc Afessi Mbafor du Conseil national de la jeunesse camerounaise. Nous devons réformer le système d'éducation et fournir aux jeunes le savoir-faire nécessaire pour qu'ils n'attendent pas un travail, mais qu'ils puissent eux-mêmes se créer un boulot. Nous devons quitter ce système éducatif datant des indépendances lorsqu'il fallait former des administrateurs et des fonctionnaires éducatifs. Des jeunes. Afessi Mbafor qui ajoute que même avec des compétences, c'est un casse-tête chinois pour un jeune d'obtenir un prêt auprès des institutions financières. Toutes ces difficultés, en plus du chômage, peuvent alimenter le terrorisme et grossir des rangs de Boko Haram. David Moussonda, ministre zambien de la jeunesse et des sports. That does not give the young people the mandate. Cela ne justifie pas que de jeunes puissent mener des activités illégales. Les gouvernements sont inquiets. Le Commonwealth est inquiet. Le monde est inquiet de la jeunesse. Nous avons une population jeunes relativement importantes à travers l'Afrique et ils sont très productifs. Ils ont de l'énergie et aller rejoindre des groupes terroristes ne peut être une solution au chômage. Alors, quelle solution à cette bombe à retardement que représente le chômage sur le continent? Les ministres promettent de travailler avec le secteur privé et les gouvernements pour créer des emplois. Ils vont aussi encourager des multinationales à investir en Afrique. Ils ont réitéré leur appel aux pays africains à investir dans l'agriculture. Ce secteur employait 70% de jeunes africains avant 1985. Maintenant, cultiver la terre n'est plus attrayant pour les jeunes africains.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Et finalement, ici aux États-Unis, 5 sénateurs républicains et démocrates ont introduit hier une proposition de loi visant à lever l'embargo imposé il y a un demi-siècle à Cuba. Un récent sondage a montré que plus de 60% des Américains y sont favorables, en particulier les agriculteurs. Les précisions de Michel Joseph.
La saison des semailles est encore loin, mais le fermier Thomas Martin jubile à l'idée de pouvoir bientôt vendre une plus grande partie de sa production à Cuba, une fois l'embargo levé.
Dans nos champs, nous cultivons en fait beaucoup de maïs de spécialité, de maïs dur, endosperme, destiné presque exclusivement au marché d'exportation. Ainsi, nous verrions des bénéfices pour nos propres opérations en cas d'exportation additionnelle vers Cuba.
Thomas Martin a déjà fait ses calculs. Une levée de l'embargo contre Cuba se traduirait par 15% de profit de plus pour sa ferme, du jamais vu depuis plus de 50 ans, fait-il remarquer. D'autres fermiers américains n'ont pas attendu l'ouverture vers Cuba, annoncée par le président Obama, pour s'attaquer au marché cubain. Mark Albertson dirige l'association du soja de l'État de l'Illinois.
L'agriculture a été exemptée de l'embargo grâce à la loi sur la réforme des sanctions commerciales prise sous l'administration Clinton, mais nous avons beaucoup de formalités à remplir.
L'une des difficultés est l'interdiction d'accorder du crédit à Cuba. Les Cubains doivent payer d'avance et en espèces.
Cela nous rend très peu compétitifs et nous avons vu un déclin drastique de nos exportations agricoles vers Cuba ces dernières années.
En accordant des facilités de crédit à l'île et en levant l'embargo, les États-Unis deviendront extrêmement compétitifs, compte tenu surtout de leur proximité avec Cuba, estime Paul Johnson, président de la coalition agricole américaine pour Cuba. L'excitation est à son comble dans les milieux d'affaires américains à l'idée que Cuba leur sera bientôt ouvert. Le fermier Thomas Martin fait partie d'une délégation de 75 représentants des secteurs agricoles et des affaires des États-Unis s'apprêtant à se rendre dans l'île le mois prochain.
Il y a assurément beaucoup de problèmes sur lesquels nous devons travailler pour ce qui est des droits humains. En tant que fermier et catholique, je vois que beaucoup d'églises sont fermées à Cuba. pas et cela me préoccupe. Cela dit, 54 ans d'embargo ont très peu accompli en termes d'amélioration des droits humains à Cuba.
Dans son discours sur l'état de l'Union en janvier, le président Barack Obama a appelé le Congrès à entamer les efforts visant à mettre un terme à l'embargo contre Cuba. Le fermier Martin espère que cela se fera à temps et que ses silos de maïs et de soja trouveront des importateurs dans la plus grande des Grandes Antilles.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Retrouvez-nous ce vendredi pour écouter de la bonne musique des îles. Zouk Music, Soca Music, du bon reggae. Et les amis, ne ratez pas cette émission parce que nous aurons l'honneur, le privilège d'avoir l'artiste Mehdi.
Bonjour, je suis Mehdi, je serai avec vous dans RM Show de Roger Moutou sur VOA Afrique.
Ben voilà les amis, ne ratez pas, appelez-nous au 001-202-619-3140 et vos commentaires sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas de la bonne musique le vendredi seulement ici sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Butson, au micro Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com. Très bonne journée.